Je veux sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes,
allez-y. J'adore ça, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, les t-shirts, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette. C'est trop intéressant. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Ok, vous voulez sortir?
Écoutez,
sortez.
Je suis chaud comme un chocolat.
Vous sortez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et je suis comme toujours accompagnée de Samuel pour cette animation. Coucou Samuel.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va, ça va.
Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Salma, Anaël et Parouine Aziz de l'école Brassard. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour. Bonjour.
Donc Parouine, vous étiez enseignante à Brassard. Anaël, tu es étudiante en animation 3D en dernière année. Et Salma, tu es étudiante aussi, mais en design graphique et digital en deuxième année. Et tu es à l'initiative de cette émission. C'est toi qui es venue nous voir et qui a organisé donc, tout le déroulé de cette émission et qui a convié Anaël et Parouine. Donc merci beaucoup pour ça.
Bah, merci à vous de nous recevoir.
Et donc, première petite question, qu'est-ce que l'école Brassard?
Alors, du coup, l'école Brassard, c'est une école d'art appliqué. C'est une école, en fait, dans laquelle on va apprendre les métiers créatifs. Et on a plusieurs filières qui débouchent donc vers plusieurs métiers différents. Et voilà, donc on a un peu trois profils différents. Mais il y a une chose qui nous réunit, c'est qu'on est passionné de créativité. Et Parouine a la chance de vivre de ça. Et avec Anaël, c'est ce qu'on souhaite faire également. Donc voilà.
Parce que donc Brassard, c'est une école qui est présente dans 15 campus dans les grandes villes étudiantes en France. Depuis combien de temps ça existe comme école?
Ah, bonne question. La date exacte, je ne l'ai pas. Mais faut savoir une chose, c'est que Brassard, ça a été créé en fait à Tours. En fait, initialement, ouais. C'est une école tourangelle. Donc j'ai eu la chance, moi, de faire l'école quand c'était encore à l'annexe Jean Royer. Et maintenant, aujourd'hui, on a une très grande école au de Lyon. Donc, ouais. Mais la date exacte, je ne sais pas si tu
l'as. Je crois que c'est 1949, donc ça, ouais, ça remonte. 75 ans, ouais. Ouais, c'est vieux.
Et oui, en tant que fière ambassadrice, tu vas tous les renseignements.
C'est ça, ouais.
Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on pourra le redire au long de cette émission. Donc Anaël et Salma, vous êtes toutes les deux ambassadrices de l'école.
Oui, c'est ça.
Bah, du coup, est-ce que... Ouais. Allez, oui, je me pose la question maintenant. Direct. En quoi ça consiste d'être ambassadrice de Brassard?
Vas-y. Ok. En fait, être ambassadeur, c'est juste... Enfin, juste, entre gros guillemets, mais c'est le principe de s'investir plus pour l'école. En fait, on se propose pour devenir ambassadeur. Et ensuite, il y a un tirage au sort qui est effectué par la direction. Et donc, on va se proposer pour faire plus de forums, de salons, de portes ouvertes. On s'investit un peu plus sur les événements et dans la vie, en fait, et la promotion de l'école.
Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est d'être présent sur pas mal d'événements pour la visibilité de l'école.
Oui, c'est ça. En fait, on représente l'école. On fait visiter l'école aux gens qui viennent avec leurs enfants, qui sont intéressés par ça. Et voilà, c'est super cool.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir envie d'obtenir ce rôle?
Bah, c'est tout simplement parce que c'est une expérience en plus. En fait, nos métiers nous poussent aussi à être à l'aise à l'oral. Donc le fait de présenter notre école, de parler de notre passion, enfin, moi, plein de fois, j'en ai parlé avec des gens qui étaient au lycée, qui étaient intéressés. Et moi, quand j'étais au lycée, que je suis venue visiter l'école, bah, le fait d'en parler avec une étudiante de l'école, en fait, c'est ça qui m'a fait postuler, en fait, parce que c'est la parole entre deux étudiants, ça je pense qu'Anne elle pourra le dire aussi, c'est hyper utile d'avoir l'avis des étudiants là-dessus.
De ne pas se heurter tout de suite au côté académique, mais plutôt d'avoir un retour aussi d'une élève.
C'est hyper important.
Et puis on n'a pas forcément la même manière de présenter aussi l'école, au sens où bah, on apporte aussi nos expériences, nos anecdotes, etc. Alors que quand ça va être présenté en conférence sur le papier en fait, par des gens qui vont diriger l'école ou quoi, ça va pas être pareil, ça va pas être aussi
ça va être aussi spontané,
ouais, c'est ça. Là on va avoir notre approche d'étudiant sur en ce moment, les anecdotes, on peut donner des anecdotes de ce qu'on fait en cours ou quoi,
C'est ça, c'est un rapport plus humain qui est plus sympa aussi. Alors, vous n'êtes plus en première année, donc les processus d'admission, c'est plus aussi frais que ça ne l'a été. Mais comment on fait pour postuler donc, à l'école Brassard et quelles sont les modalités d'inscription ?
Et bah, postuler à l'école Brassard, moi, je me souviens que du coup, je l'avais fait en ligne. J'avais envoyé ma candidature, donc toutes mes coordonnées, etc. Ensuite, on doit créer un book. Je crois que c'est minimum 15 œuvres. Qui nous représentent, ça peut être de la photo, ça peut être du collage, ça peut être de la peinture. C'est vraiment des choses qu'on fait, des œuvres artistiques, des œuvres créatives au sens large. Et ensuite, je me souviens aussi qu'on avait une œuvre imposée, donc c'était soit une affiche, soit de la nature morte. Ça, c'est plus précis. Et le jour donc de l'entretien, moi je me souviens qu'en plus j'avais fait mon entretien avec Marouine, donc c'est un peu marrant. Mais le jour de l'entretien, la personne qui vous fait votre entretien, en fait, elle cherche à vous connaître, à voir quel genre d'aspect créatif, comment vous l'abordez, aussi du coup voir les œuvres que vous avez produites.
C'est difficile ça de se faire un book à la sortie du bac et de sélectionner 15 œuvres ?
Un petit peu. Moi, je me souviens que je l'avais fait tout début terminale. Donc comme ça, je me suis dit au moins, je suis tranquille avant le bac. Ça, vraiment, je voulais anticiper parce que je sais que le bac, c'était assez dense. Mais en soi, c'est difficile si on s'y prend à la dernière minute, forcément. Mais franchement, moi, j'ai kiffé le faire. Quoi. C'est vraiment... c'est tellement large, en fait. On fait un peu ce qu'on veut, on propose ce qu'on aime, quoi. C'est tout.
Ouais, et puis, pardon. Si j'ai des conseils à donner aussi, enfin pour avoir eu cette expérience d'entretien, parce que je l'ai passé, un entretien, ça se prépare. C'est pas juste on rassemble en fait les dessins qu'on a fait sur le coin de la table, etc. C'est vraiment un book, on crée un book. Et je conseille une chose, et c'est ce que j'ai fait aussi pour tous ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de prendre des cours de dessin, mais d'en prendre, parce que d'avoir les bases du dessin académique, c'est hyper important. Et ça permet aussi de montrer aussi la motivation quand on est face au jury, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, un exercice qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Voilà. C'est vrai que ça aide. Après, j'avoue que à mon entretien, on m'a dit on te prend, mais pour ton profil, parce que certes, ça se voit que tu crées au quotidien, que tu as l'initiative créative et tout, mais ils m'ont dit t'as pas les bases du dessin, et ça se voit. Et c'est pas grave, je l'ai travaillé, mais c'est pas forcément nécessaire à 100% d'avoir
un petit peu le contre-exemple.
J'ai un autre contre-exemple parce que dans ma classe, et il est dans ma classe depuis que on est en prépa, on a passé notre scolarité à Brassard ensemble, et en fait il est rentré à Brassard, il savait pas du tout dessiner, mais pas du tout, et il a réussi à rentrer quand même, mais parce qu'il y avait la motivation, il y avait une démarche créative, il y avait quelque chose quand même. Et ça se fait vraiment au cas par cas aussi, je pense.
Oui, bien sûr. Après, lors de justement le jury, l'entretien, c'est aussi connaître la personne, tes motivations. Voilà, si vraiment on est face à une personne qui a envie de rentrer, on peut donner la chance, évidemment.
Oui, c'est ça, le dossier ne veut pas être très léger non plus. Enfin, si ces profils ont été sélectionnés, c'est qu'il y avait quand même quelque chose de concret derrière.
C'est ça, forcément.
Que dans la présentation, dans la manière aussi d'apporter le book, de faire les choses, on détecte, nous, professionnels, en tout cas avec le recul, l'expérience fait que oui, cette personne est motivée ou cette personne a le potentiel d'y arriver. Voilà, c'est aussi ça.
Puis c'est surtout important. Pour préparer à la prépa qui est dense derrière. Donc c'est important ça.
Je t'en prie.
Et donc, imaginons que je passe l'entretien. Quels sont les différents cursus qui me sont proposés par...
Quoi qu'il arrive, le mieux c'est toujours de faire la prépa. La classe préparatoire, en fait, elle va vous préparer à toutes les filières qui vous est possible de faire après. Vous allez voir les bases du dessin, vous allez voir les bases des logiciels, notamment Photoshop, Illustrator, logiciel de photomontage, etc. Également la 3D. Après, au second semestre, vous allez vous spécialiser. Moi, par exemple, j'ai choisi la filière design graphique. Annelle, je suppose, la 3D. Et ensuite, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez la filière IEC, c'est une filière dans laquelle vous allez étudier la technique plus du design graphique. Vous allez faire donc 3 ans post-bac avec cette filière. La filière DG, c'est la filière qui est la plus longue par rapport à celle d'IEC, parce que c'est une filière dans laquelle du coup vous allez étudier 5 ans, donc vous allez avoir un bac plus 5. Vous allez donc étudier le design graphique, vous allez étudier tout simplement la conception de direction artistique, d'une marque. Là, on est beaucoup plus dans la stratégie et dans le marketing par rapport à l'IEC. C'est deux filières qui se ressemblent beaucoup. Vous avez donc la 3D, qu'Annelle pourra bien mieux vous présenter que moi. Il y a aussi l'art graphique, c'est une filière dans laquelle on va beaucoup plus se baser sur tout simplement le traditionnel, la BD, etc. Donc en fait, toutes ces filières-là, on les retrouve entre guillemets un peu dans la prépa. On étudie vraiment les bases et après, là, on peut se lancer vraiment dans les filières.
Et donc toi, tu dirais que la prépa, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est fortement recommandé ?
Je pense que Barine pourra mieux vous le dire que moi. Je pense qu'il y a peut-être des élèves qui ont eu derrière assez d'expérience pour sauter entre guillemets la prépa. Mais moi, par exemple, qui avant n'avais jamais touché à Photoshop ou quoi que ce soit.
Ouais, ça t'a vraiment apporté toutes ces bases-là. Ouais.
C'est exactement impossible de ne pas faire la prépa et d'arriver tout de suite en design graphique comme ça. Non.
Ouais, là, c'est un passage obligé en fait, la prépa. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire que si une personne a fait par exemple un IUT com ou vient d'une école avec suffisamment de bases et d'expérience, il peut avoir une passerelle vers la première année directement. Mais c'est des cas particuliers et c'est pas tout le monde. Quoi.
Ouais, c'est ça. Voilà. Si on se réfère plutôt à un profil sorti de bac, ce sera plutôt vers la prépa qu'il faut aller.
Il vaut mieux.
Eh bien oui, alors on a la chance d'être avec Anaël qui est en animation 3D. Est-ce que tu peux nous présenter ce parcours ?
Ouais, en gros, Brassard, alors je suis dans la filière animation 3D parce qu'il faut savoir que sur les campus, on n'a pas forcément toutes les
filières qui sont représentées. Ouais.
Et donc, à Tours, on a l'animation 3D et par exemple, je crois que c'est Bordeaux qui ont le game design. Et d'accord. C'est un peu similaire, mais pas tout à fait pareil, au sens où game design, ils ne vont pas faire que du jeu vidéo non plus, ils vont faire aussi du jeu de société, etc. Ça va vraiment être cette démarche de comment conceptualiser un jeu. Après, je ne sais pas trop comment se passe leur formation non plus, mais je sais qu'ils font des jeux de société.
Oui, il y a ces spécificités-là, pardon, en fonction des écoles.
Ouais. Et donc, en gros, la formation animation 3D immersion, c'est une filière qui est assez généraliste. Donc, on va y apprendre les bases de la modélisation, l'animation, un peu toutes les bases. On nous donne un peu tout pour pouvoir, nous spécialiser sur les dernières années, sur ce qui nous a plu et pouvoir entrer dans l'industrie sur le domaine dans lequel on a voulu se spécialiser.
Toi, par exemple, dans quel domaine tu as voulu te spécialiser ?
Je suis restée un peu indécise. Donc,
d'accord.
Je ne suis pas très spécialisée, mais je reste plus sur l'aspect modélisation personnages et environnement et petits objets. Pour voilà. Après, je suis un peu indécise. On est plusieurs à être indécis, mais après, on se spécialise quand même pour le projet de fin d'études. Parce que pour situer un peu le projet de fin d'études, c'est un film ou un jeu. C'est nous qui choisissons. Et donc, on se met en groupe avec nos camarades. Et par exemple, nous, on est quatre et on fait un film d'animation ou un jeu vidéo.
Et ces différents cursus, ils se font en combien d'années ?
Infographie et conception, c'est sur 2 ans après la prépa, donc 3 ans. Design graphique, c'est 5. La 3D, maintenant, c'est 5. Et l'illustration, c'est 4.
Il me semble.
Ouais, c'est marrant que ce soit un peu différent en fonction des formations. Et bon, alors si on a fait un petit peu tout ce tour général, j'arrive pas à trouver mes mots. En termes de frais de scolarité, ça représente à peu près combien une année à Brassard ?
Pas le prix exact en tête. Il me semble qu'on est dans les 6 000 peut-être.
Ça augmente. Je suis pas sûre.
Tout a un peu augmenté, mais là, pour les années dans les filières, sans compter prépa qui est un peu moins cher, on est autour de 7 000, je crois.
Ça a un coût, je le cache pas. Je suis passée par là. Je suis passée par cette école payante. Et à l'époque, j'avais pas du tout les moyens. Et en fait, ce qui est chouette à l'école, c'est que déjà, on vit l'école. On a envie d'y être. Et puis moi, je me suis donné les moyens. En fait, clairement, j'ai fait un prêt. J'ai remué les terres. J'ai fait des jobs, etc. Je m'en suis sortie. Et après, honnêtement, je gagne bien ma vie donc aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est juste un vague souvenir. Quoi. Donc, c'est possible, en fait. Il ne faut pas non plus se freiner et se dire, je ne peux pas, mes parents n'ont pas les moyens.
C'est ça. L'idée, c'est d'avoir un projet quand même en tête, d'aller jusqu'au bout de ça.
Oui.
Mais c'est payant.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait un entretien d'admission, parce que l'objectif est justement de prendre des personnes vraiment, réellement motivées. Ce n'est pas pour prendre des personnes qui, au bout d'un an, auront payé une année à 6 000 euros, 7 000 euros, et qui s'en vont dégoûtée avec un crédit voilà, à ouais, rembourser. Quoi. Donc c'est hyper important de faire attention aux personnes qui vont intégrer l'école. Voilà.
Et donc, dernière question avant de passer en pause musicale. D'où vient votre passion pour l'univers créatif?
Je pense que c'est un peu quelque chose avec lequel on vit. Enfin, moi, je sais que l'univers créatif, ça a quelque part toujours fait partie de moi. Je suis fille unique, donc j'ai toujours dû m'occuper toute seule, jouer toute seule. Donc forcément, bah, j'ai très vite commencé à dessiner, j'ai très vite aimé ça. Après, forcément, j'ai fait d'autres choses, mais l'univers créatif, c'est quelque chose, pour ma part en tout cas, qui est venu dès mon enfance. Je me revois au lycée, j'avais toujours un peu de quoi dessiner, j'avais un carnet d'idées où j'écrivais des petites idées créatives, des choses comme ça. Donc ouais, ça fait, en tout cas ouais, pour moi ça a toujours fait partie de mon quotidien en fait.
Est-ce que tu as grandi dans un univers avec une famille plutôt créative?
Absolument pas. Non, pas du tout. Je suis vraiment j'ai une famille qui est pas du tout
d'accord, axée là-dessus,
pas du tout.
Mais c'est vraiment toi en expérimentant que tu as développé ça.
Ouais, et puis c'est vrai que enfin en fait ils ont vu aussi je pense que j'adorais ça donc à tous les Noëls, j'avais mes petits trucs de dessin.
Oui, tu as pu approfondir tout ça.
Ouais, et puis en fait au début c'était j'ai commencé par peindre et je peignais des toiles pour décorer ma chambre et en fait j'ai commencé par les offrir et décorer les chambres de ma grand-mère, de ma mère. Enfin voilà, j'ai décoré un peu tout le monde en fait avec ça. Mais ouais, c'est vrai que c'était plus une blague entre guillemets entre nous. Elle aime peindre et tout. Et en fait, j'ai commencé à peindre au lycée. Enfin, je peignais partout en fait. J'adorais ça.
Alors, pour ma part, c'est pareil. Je crois que c'est. Enfin, ma mère était créative, mais moi, je sais pas. J'ai eu un écho il y a pas si longtemps, et je me suis rappelé que petite, en fait, j'avais déchiré en fait les publicités dans les magazines et j'ai collé en poster dans ma chambre. Donc, j'avais vraiment des posters de parfums, des choses ou des collections de CD, d'albums, parce que j'adorais la pochette ou je rachetais le best-of parce que c'était encore plus joli. Et en fait, ouais, ça a toujours fait partie de moi, les belles choses, voilà. Je suis créative, j'aime les belles choses, j'aime créer, j'aime avoir des... Je sais pas, voilà, il y a ce côté qui a toujours été présent. Enfin, j'ai grandi avec ça, je crois, voilà.
Pour ma part, je vais dire à peu près la même chose que Salma, au sens où bah, je pense que ça a toujours fait partie de moi. Après, j'avais ma maman qui était très créative et qui nous a toujours stimulés avec ma sœur, parce que j'ai une sœur jumelle. Et donc elle nous a toujours stimulé à nous faire expérimenter des choses, différentes manières de s'exprimer créativement. Et en fait, je l'ai entretenue à force toute seule et de plus en plus en fait. Et au début, je voulais pas faire forcément de métier dans l'art, jusqu'à de plus en plus avoir des idées de profession qui se rapprochaient. De l'art et jusqu'à aujourd'hui où
oui bah, ça se concrétise vachement
ouais non mais oui et ça fait bizarre
ouais. Ouais. Puis, aussi je pense que ce qu'il vient de dire c'est que même si on n'a pas toutes les meilleures idées créatives au début c'est là où justement Brassard nous accompagne c'est que on devient vraiment créatif aussi avec cette école on a un regard qui est complètement différent et ça c'est avec le temps en fait notre regard change quand je passe devant une affiche je la regarde pas de la même manière qu'il y a 2 ans donc forcément ça aussi, c'est important de le préciser, je pense.
Eh bien, merci beaucoup à vous pour cette présentation. Donc, on y revient juste après une pause musicale sur Radio Campus Tours. Que va-t-on écouter, Samuel?
On va écouter un pionnier des musiques électroniques des années 90. C'est Mike Paradinas, qui est connu sous le pseudo de Yuzik, artiste productif. Ici, c'est un titre de son album Grush, paru en 2024. C'est Fogou. Thank you. Vous venez d'écouter Yuzik et son titre Fogo sur Radio Campus Tours. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à nos invités. Alors je rappelle que Salma, Anaël et Parwin sont avec nous pour présenter l'école Brassard. Alors cette école laisse aux étudiants une liberté créative sur certains projets, notamment dans les mises en situation. Salma, tu parlais du concours scène locale par exemple.
Ouais, on a eu la chance d'avoir une semaine en fait, pendant laquelle on a fait l'affiche en fait, tous ensemble, donc toute la filière design graphique en deuxième année. On était du coup 40 à participer à ce concours. Le principe, c'était tout simplement de faire une affiche pour faire du coup la promotion de l'événement scène locale Autant Machine. Et en fait, différentes personnes, par exemple, les personnes de Temps Machine, de scène locale, je crois qu'il y avait même quelqu'un de Radio Campus, de la bibliothèque de Joué-les-Tours, il me semble aussi. Donc, du coup,
il y avait deux personnes de Radio Campus. Ouais,
j'étais là aussi.
Ah bon ? Ah, ok.
J'ai pu voir les travaux. C'était magnifique.
Et en plus de ça, on avait entre guillemets un peu la pression parce que c'était la première fois que c'était les deuxièmes années qui participent. Normalement, c'est les troisièmes années. Et ça s'est super bien passé. Et c'est mon camarade que je salue, Elouane, qui a gagné le concours. Son affiche était vraiment trop belle. Et son affiche, elle a été mise partout dans Tours. Il a été affiché. On a tous été affichés, en fait, Autant Machine. Mais ça c'est génial parce que du coup, ça rend crédible un projet. Et surtout, on se rend compte que c'est pas juste créer pour créer, c'est créer pour vendre, finalement, pour faire la promotion de quelque chose. Donc ça, c'est hyper important aussi.
Puis ça vous donne une première visibilité déjà, et ça, c'est pas rien.
Ouais, mais c'est là, il a eu vraiment une visibilité de fou. Enfin, c'est génial. Il a été posté sur le compte de Temps Machine. Il a eu. Ouais, c'est super, surtout que c'est une expérience. Après, ça a permis lui aussi de se faire des contacts. C'est génial.
Et est-ce que, en parlant d'expérience concrète, est-ce que vous avez la possibilité de faire des stages au cours de cette formation ?
En design graphique, oui. Alors en prépa, on ne fait pas de stage. En deuxième année, donc en première année de design graphique, on n'en fait pas non plus. En troisième année de design graphique, on fait un stage de 2 à 3 mois environ. C'est un stage durant lequel on est accompagné par des directeurs artistiques, des graphistes. Voilà. Le but, c'est d'être entouré de professionnels. Ce n'est pas juste de faire un stage d'observation, c'est vraiment d'être avec des pros et travailler avec eux et vraiment, entre guillemets, avoir nos premiers pas dans le métier. Évidemment, on n'a pas toutes les clés d'une société d'un coup. Le but, c'est juste de voir comment ça se passe, mais d'y participer également. Et du coup, on a aussi un stage en DG4, du coup, en quatrième année. Je crois que celui-là est plus long, je crois que c'est 5 mois, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça.
Et ensuite, on a une alternance, donc à la cinquième année, du coup, la dernière année chez Brassard. Et le but, c'est d'après, possiblement rester dans l'entreprise dans laquelle on est.
Et la question vient de partir de ma tête, c'est magnifique.
Il n'y a pas de souci.
Du coup, je reviendrai juste après dessus. Mais Anaël, tu as la possibilité de faire un cursus à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Alors, il faut savoir que ce n'est pas dans toutes les filières qu'on a cette possibilité. On peut l'avoir par nous-mêmes via les stages. Mais là, c'était un peu différent. C'est qu'on nous a proposé... alors, je suis sur avant la réforme. Je suis sur un cursus qui est avant la réforme. Donc, j'étais en 4 ans, en comptant la prépa, au lieu de 5. Et donc là, on nous proposait une cinquième année avec une école partenaire au Canada, donc l'école NAD. Et ça serait... en fait, on nous a proposé ça. Et ça serait pour faire du design de jeux vidéo narratifs. Donc, s'intéresser à comment raconter une histoire avec le visuel sans le montrer par des mots ou quoi, juste avec que ce soit une composition d'images, des couleurs, etc. Enfin, c'est toute une réflexion comme ça à pousser et qu'on nous propose de pousser lors de cette année au Canada. Et en plus, au Canada, c'est un gros pôle pour le milieu 3D où il y a énormément de studios, de gros studios à Montréal, parce que l'école NAD est à Montréal. Et donc, il y a énormément de gros studios là-bas. Enfin, gros et petits studios d'ailleurs, mais en gros, c'est...
C'est un gros pôle de la création 3D là-bas.
Oui, c'est un gros pôle et je pense qu'il y a de belles opportunités. Ouais, au-delà de s'investir sur une cinquième année, on s'investit aussi sur... je pense que ça peut nous donner des belles opportunités de travail.
Ouais. Tu pars dans combien de temps, toi ?
En août.
Ok, pour l'année prochaine.
Ouais.
Super.
Et du coup, moi, j'ai retrouvé ma question. Par rapport au stage, est-ce que les étudiants ont le droit de choisir leur secteur dans lequel ils peuvent réaliser leur stage?
Oui, ils ont...
J'espère pour les étudiants.
Mais oui, ils ont le droit. Après, je sais que pour le stage, il vaut mieux évidemment être accompagné d'un directeur artistique, d'un graphiste. Le but, c'est vraiment de faire un peu de tout, en fait. Je pense qu'on peut se spécialiser. Je prends un exemple peut-être de la signalétique, par exemple. C'est possible de faire un stage, notamment en troisième année, dans un milieu plus précis. Mais néanmoins, c'est mieux de faire quelque chose, je pense, un peu plus large, histoire de ne pas se fermer non plus trop les portes et faire trop la même chose pendant 3 mois. Le but, c'est vraiment de trouver un stage enrichissant, en fait. C'est surtout ça qui est important. Ouais.
Tu dis ça, est-ce que tu dis ça dans l'éventualité où, justement, tu ne sais pas encore dans quoi tu peux te spécialiser et donc, il faut garder la porte large?
Bah, en fait, moi, je vois un peu ce stage-là comme... j'ai jamais fait de stage dans ce domaine. Donc, quitte à faire un stage, autant peut-être que je vais... entre guillemets, me planter dans ce que je vais faire, mais je préfère ça plutôt que de prendre le risque de me focaliser sur quelque chose que je maîtrise à peu près et pas découvrir le reste, parce que je me dis que justement on est dans cette école pour tout voir, en fait. Forcément, on sera pas bon
dans tout. Tu veux essayer d'en tirer le maximum.
Ouais, c'est le but après. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses.
Ouais, je pense que ce que tu essaies de dire, c'est qu'effectivement, trouver un stage en fait, dans une agence créative qui touche un peu à tous les domaines, site internet, print, etc.
C'est le meilleur.
C'est quand même beaucoup plus intéressant que rentrer dans une agence qui finalement ne fait qu'une seule chose. Donc en fait, on va passer 3 mois à répéter le même, le même process. Et c'est dommage de ne pas voir le reste. Voilà.
C'est vrai qu'on tourne un petit peu là autour des débouchés professionnels. Donc, dans vos vies respectives, justement, on a un bel exemple aussi après avec Parwin. Quels sont les débouchés que vous pouvez envisager après ça?
Tout simplement dans le design graphique. Du coup, on peut déboucher parce qu'à la fin de nos études, on aura donc un diplôme de directeur artistique. Le diplôme de directeur artistique, on devient, si on continue évidemment là-dedans, hein, mais donc directeur artistique. Que ce soit en agence, je pense que
parce
le
que
mieux...
Parce que ça peut être large, directeur artistique.
Oui, c'est ça. Je pense que le mieux, c'est quand on sort de l'école, c'est d'aller en agence. On peut aussi avoir la possibilité d'être en freelance, donc d'être son propre patron, d'avoir ses propres clients. Le souci, c'est que quand on sort de l'école, même si on a 5 ans de bagage, on n'a pas l'expérience professionnelle, je pense, suffisante pour d'un coup faire de la freelance et gérer ses clients et gérer son temps, etc. C'est plus compliqué. Parce que même si on est dans une école qui nous professionnalise, on est quand même encadré. On est quand même assez entouré pour savoir ce qu'on fait, etc. Mais on peut devenir donc, du coup directeur artistique, peu importe dans quel domaine. Enfin, le but, c'est toujours de faire la promotion avec des outils de communication, avec que ce soit les affiches, que ce soit le côté digital. Je pense par exemple au motion design. Je pense à tous ces outils-là en fait, qui vont nous permettre de faire la promotion de produits. Voilà.
Si tu veux nous parler peut-être un petit peu des débouchés en 3D, ouais.
En 3D, c'est assez large parce qu'on ne se rend pas forcément... Enfin, même design graphique, c'est large, mais on ne se rend pas compte. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, il y a de la 3D partout. Beaucoup de publicités, même d'affiches publicitaires, sont faites via la 3D. Y a beaucoup de simulations 3D à la télé, dans les pubs, toujours. Les voitures, dans les pubs de voitures, souvent elles sont modélisées, intégrées dans des environnements 3D.
Construits numériquement.
Ouais, voilà, exactement. Et après, donc c'est pas que le jeu vidéo ou le film d'animation ce qu'on pourrait penser au premier abord. Il y en a énormément, il y en a également dans l'aéronautique pour tout ce qui est les petites pièces.
Oui, c'est ça, dans l'ingénierie, il y en a beaucoup aussi.
Je dis aéronautique, mais c'est ça, l'ingénierie. Et c'est un peu omniprésent de nos jours. C'est rentré dans...
Même dans le cinéma. Hein.
Ouais. Bah, quand on regarde des films, les monstres sont souvent faits en 3D. Là où avant, c'était que du grimage, maintenant, il y a du grimage, mais il y a aussi beaucoup de 3D. Et de correction numérique... La motion capture, par exemple, les combis qui captent les mouvements permettent de, en fait, associer les capteurs à des parties du corps.
C'est l'exemple le plus grossier que j'ai, mais qui est parlant, c'est comme ça qu'a été tourné Avatar, non?
Oui, exactement.
Ça permet de donner vie à ton personnage.
C'est ça.
Et donc, Parwine, vous l'aviez dit, vous avez été professeur à Brassard, mais on n'a pas précisé que vous êtes passé du coup à la case Brassard. Ouais. Et donc, quel a été votre parcours à Brassard, le après, et comment cette transition s'est faite entre étudiant à prof?
Alors, ça remonte à 2003. Donc, j'intègre l'école Brassard. Ouais, je kiffe cette école. Je sais pas, j'ai des.
On est en train de faire une promo dans.
Non, mais honnêtement, je vous dis, on tombe amoureux de l'école, c'est pas possible autrement. Moi, je sais pas, je fais des belles rencontres. À l'époque, Bernard Dariès, qui est le réalisateur d'Inspecteur Gadget, etc., qui a contribué en fait à la réalisation de Jess, Conquérant de la Lumière. C'est le directeur de l'établissement. Donc voilà, donc déjà une belle rencontre pour commencer. Donc je fais tout mon parcours et puis j'apprends. Comme dit Salma, en fait, on nous accompagne, on nous pousse dans notre créativité et on nous ouvre le champ des possibles. À la fin de l'école, il y a quand même un suivi. Donc en fait, s'il y a des offres qui tombent en fait, d'agence ou quoi, on nous relaye en fait, les possibilités. Donc, qu'est-ce qui se passe après ça? Je commence à faire petit à petit mes armes. Donc, je commence à travailler dans une boîte qui s'appelle Nocta Bene. Donc, je reste pas très longtemps. C'était un CDD d'un mois. Ensuite, je vais chez les poupées Corolle. Donc, voilà. Donc, les poupées Corolle, c'est quoi? En fait, on peut aussi faire des étiquettes, des packaging pour les poupées. Voilà. Enfin, voilà. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Je fais mes armes en agence et puis je me lance en freelance. Et j'ai les deux casquettes pendant très longtemps. Je bascule aussi un petit peu commercial et puis finalement je me lance totalement en freelance. L'expérience du on fait ce qu'on veut. Et là on se rend compte qu'honnêtement, c'est ce que j'appuie en fait ce que Salma Nawel nous dit, c'est qu'en fait le champ des possibles est là. C'est-à-dire que la créativité ne s'arrête pas juste à du papier. Tout est support d'expression, de communication. On peut travailler dans l'événementiel, on peut travailler à, je sais pas, imaginer un logo sur un t-shirt, on peut imaginer. Voilà, en fait, la créativité, l'imagination nous pousse en fait à travailler dans plein de secteurs différents. Et il faut juste se dire, non, on ne va pas juste être DA dans une agence, on ne va pas juste être 3D, voilà, mais comme on disait, on peut faire tellement de choses, tellement de possibilités, être directeur artistique, mais je ne sais pas, pour l'événementiel, pour aller chercher un peu plus loin et aller chercher en fait toutes nos capacités. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait ça. En fait, j'étais en freelance et j'ai bossé pour plein de choses, plein de créations différentes, etc. Et en fait, de fil en aiguille, donc j'ai monté en compétences, je suis retournée à l'école, j'ai donné des cours, j'ai retrouvé du coup Stéphane Terrien qui était à l'époque mon prof de PAO qui est maintenant le directeur, donc je salue au passage, qui m'a tout appris.
Donc PAO, peinture assistée par ordinateur.
Exactement, donc voilà, et puis j'ai adoré donner des cours. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai mon premier patron, donc Nocta Bene de l'époque, qui est revenu me chercher sur LinkedIn. Et aujourd'hui, maintenant, je suis chargée de développement et de communication dans une boîte, dans un bureau d'études d'éclairage. Donc, en fait, c'est du lighting design. Donc, en fait, là, pour le coup, encore du design, mais transposé à la lumière. Donc, comme je vous dis, en fait, la créativité, elle ne s'arrête pas juste. Voilà, tout est support de communication. Si vous êtes créatif, vous avez envie. Le champ des possibles est devant vous, quoi.
Et ben, on va rester sur la créativité. Justement, Salma, tu voulais évoquer un sujet que tu trouvais important et que tu as commencé à évoquer, d'ailleurs, juste avant qu'on écoute un peu de musique. C'était justement celui de la crédibilité des milieux créatifs et artistiques, et donc le fait de se sentir soutenu ou non par ses proches pour se lancer là-dedans.
Oui, c'est moi en tout cas ce qui a été, je pense, un peu moteur en fait là-dedans, c'est que au début personnellement je voulais pas du tout faire ça, j'étais pas du tout entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais destinée à ça. Je voulais faire du droit, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus académique, bien que le droit ce soit génial aussi, mais je ne me suis pas vraiment trop posé la question. En fait, pour moi, c'était logique d'aller à la fac, de faire des études assez standards. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu créatif, que j'ai commencé à voir Brassard un peu plus du coin de l'œil, etc., j'ai remarqué notamment de la part de certains de mes profs au lycée que c'est génial, tu as déjà trouvé une école. Et quand je parlais de l'école Brassard et qui comprenait que c'était une école d'art appliqué, etc., je voyais un peu le visage qui se décomposait. Mmh. « Ah, si tu fais ça, ouais, ok, d'accord. » et en fait, ça, c'est vrai que c'était assez difficile parce que moi, j'ai postulé chez Brassard, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. En fait, on se construit. Donc, c'est important de se sentir au-delà d'aimer ce qu'on fait et de savoir qu'on va kiffer nos études. Mmh. Je pense que le plus important aussi,
c'est d'avoir des gens qui soutiennent derrière.
Oui, c'est ça. Même la famille. Moi, j'ai de la chance, évidemment, ma famille que je salue, qui me soutiennent. Et ils sont adorables avec moi. Je pense aussi à ma grand-mère à chaque fois qui adore regarder mes projets, surtout en prépa, elle aimait trop. Mais ouais, c'est super important parce qu'en fait, malgré tout, même si nos milieux, ils sont génialissimes et on adore ce qu'on fait, mais en fait, ils ne sont pas vraiment souvent, malheureusement, compris. On a parfois aussi, quand on se présente face à des gens, on dit qu'on est dans une école d'art appliqué, on a l'impression qu'en fait, on ne fait pas d'études. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, limite, de justifier mes études alors que parfois, j'ai l'impression de fournir plus de travail que certains qui sont à la fac, alors que voilà, ça reste tant qu'en fait on fait ce qu'on aime et tant qu'on se lève le matin. Et moi, j'ai pas du tout envie de me lever à 40 ans et de me dire mince, j'ai loupé un truc, je suis pas heureuse dans ce que je fais. Non, non. Donc, j'ai préféré foncer à 16 ans et j'ai jamais le regretté. Et là, je vais en avoir 20 et je le regrette pas du tout. Enfin, c'est voilà.
Et toi qui te considérais pas destinée à ça à la base, comment du coup t'as entendu parler de l'école et t'en es venue à postuler?
Et comme je le disais tout à l'heure, je peignais un peu partout. En fait, quand j'allais au lycée, j'avais un sac de cours et un sac, entre guillemets, de peinture. J'avais un gros carnet dans lequel j'avais de quoi peindre, de quoi faire plein de trucs. Et dès que j'avais un peu de pause, je faisais ça. Et un jour, quelqu'un est passé derrière moi et m'a dit « Ah, mais c'est beau ce que tu fais, tu devrais trop faire Brassard. » Et moi, je ne savais plus tout ce que c'était. Du coup, je me renseigne un petit peu et puis je vois que les portes ouvertes sont dans 2 semaines. Donc, d'où aussi l'importance d'être ambassadeur, parce que c'est génial. Et j'ai rencontré une des ambassadrices de l'école qui me l'a présenté, qui m'a parlé, on a visité. Ma mère était là, ma tante aussi, mon petit cousin. Et mon petit cousin, d'ailleurs, adore l'école aussi. Hein. Il veut postuler. Hein,
tout le monde est converti.
Ah, mais vraiment. c'est vrai que c'est là aussi où je trouve que c'est hyper important d'être soutenu. C'est parce que je prends l'exemple de mon petit cousin qui, à l'époque, avait 9 ans. J'ai vu que lui, il commençait un petit peu à s'intéresser à ça. Je me suis dit, non, mais faut vraiment que je le pousse et vraiment qu'il fonce. Parce que si déjà, à cet âge-là, il s'y intéresse, mais qu'est-ce que ce sera dans 15 ans? Donc, c'est trop cool. Donc, ouais, c'est important. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai réussi à découvrir l'école Brassard. Et maintenant, j'y suis. Voilà.
Alors, le temps file, mais je me permets une dernière question avant de faire une nouvelle pause. Est-ce que c'est quelque chose, justement, sur laquelle l'école accompagne les étudiants, le fait de s'affirmer et de prendre confiance en soi dans le secteur artistique?
Complètement. Ouais. Je dirais complètement.
Les intervenants, on est tous des passionnés, donc on est tous passés par là. Ouais, et autant dire qu'on transmet à nouveau une passion et on pousse en fait. C'est possible, tout est possible. Et c'est tellement chouette d'être payé à faire du dessin. Enfin, c'est clairement ça en fait. Donc non, c'est vraiment chouette. C'est top. Se lever le matin et se dire waouh.
Je me souviens sur les premières semaines en prépa. Je me levais le matin, c'était ouais, mais je vais en cours, mais j'ai pas l'impression d'aller en cours, j'y vais pour faire ma passion, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est génial, et c'est même un rêve qui se réalise, parce que là on est en train de réaliser notre film de fin d'études, donc c'est vraiment génial.
Ouais, on fait tout simplement ce qu'on aime, quoi, donc forcément on vous en parle.
Mais oui, il y a des grands sourires là partout dans le
studio. Et promis, ça continue après. Oui, oui.
Et donc, on va faire cette pause musicale. On va écouter Eno Obon et le titre Late Night Bumps et le titre Listen de Tyless. Thank you.
On vient de faire un petit détour lofi en écoutant Ono Obong et Late Night Pumps et Tides avec le titre Listen. Vous êtes sur Radio Campus Tour et vous écoutez toujours l'émission Sortez et avec nous des étudiantes de Brassard ainsi qu'une enseignante afin de présenter un petit peu l'école. Donc dernière partie et pas des moindres, tu avais initié ce sujet de l'IA, Salma.
Oui.
Pas évident comme sujet dans le milieu créatif. Comment c'est traité au sein de l'école et comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme un outil?
Alors, déjà, petit rappel, Brassard, c'est une école qui existe depuis 75 ans. Donc forcément, quand on dit ça, on peut se dire, oui, ça peut être un peu entre guillemets vieillot d'utiliser l'IA. L'IA est souvent vue comme un ennemi de la créativité. Mais en fait, Brassard, c'est une école qui vit avec son temps. Et en fait, on vient en tout cas dans ma filière en design graphique. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, notamment pour la filière d'Annel qui est la 3D. C'est plus spécial, je pense. Mais nous, en tout cas, en design graphique, on utilise en fait l'IA. Je pense photomontage, je pense à plein d'autres supports de communication visuelle où l'IA vient nous être comme un outil. Parwin sera mieux l'expliquer que moi, mais notamment, ouais, surtout les photomontages, en fait, ça nous aide énormément à retravailler un visuel, à retravailler la crédibilité de ce qu'on va proposer au client. Le but, c'est qu'on en mette un peu plein les yeux, en fait. Et donc, forcément, l'IA, c'est un outil pour ça. On utilise plein de logiciels. Et ce logiciel, en fait, ils ont aujourd'hui des capacités énormes par rapport à il y a 15, 20, 30 ans. Donc, forcément, bah, ils avancent avec leur temps et nous aussi. Donc, ça crée, en fait, de nouvelles branches et de nouveaux supports de communication visuelle.
Ouais, je rejoins totalement la question de l'IA, en fait. Je me souviens de l'époque, parce que ça évolue, évidemment. Ouais. En fait, les banques d'images ont débarqué à une époque et on s'est dit, ça y est, c'est la fin du graphisme. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ou Vistaprint a débarqué, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, non, finalement, tout ça, c'est rien. C'est des supports. En fait, il faut voir que le temps change, on avance. Le métier évolue, la création évolue. Donc aujourd'hui, l'IA, faut l'utiliser plutôt comme quelque chose qui va vous pousser à être d'autant plus créatif, à vous apporter des solutions aussi techniques, des solutions peut-être même créatives parfois. Parce qu'en fait, le premier sujet avant de se lancer en fait dans une création, c'est regarder ce qui se fait, observer, aller faire des analyses. Donc cette analyse, pourquoi pas la faire aussi avec l'IA? C'est-à-dire qu'en fait, on va analyser voilà, les possibilités, le champ, voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on pourrait proposer. Donc finalement, brainstormer avec une IA, pourquoi pas? Et après, par contre, voilà, à vous de redoubler d'efforts aussi pour être créatif et aller chercher en fait vraiment l'idée quelque part en vous. Voilà, c'est ça. Enfin, faut pas se servir de l'IA comme finalité, mais plutôt comme une aide, quoi.
Voilà. C'est ça, ouais.
Et puis l'IA aussi, ça peut nous aider dans notre processus de recherche, comme tu disais, Parwin. Mm. Ça peut aussi nous dire, ah, c'est vrai qu'il y a plutôt ce style qui pourrait correspondre. Mm. Et donc après, avoir eu l'idée donnée par l'IA, on va aller chercher ce qui se fait sans IA. Mais en fait, ça peut initier un processus de recherche aussi pour nos
créations. Oui. Ouais. Puis il ne faut pas oublier que l'IA se base aussi sur ce que l'humain crée. Donc forcément, je vois très mal l'IA nous voler nos emplois alors que c'est grâce à nous, entre guillemets, qu'elle peut créer des choses comme elle le fait. Mais c'est un outil qui est extraordinaire, surtout pour nous. Enfin, c'est génial.
Et les profs reçoivent des formations pour ça, à Brassard?
Pour se former? On est professionnels, on est des intervenants professionnels. Donc on se forme déjà, nous, en tant que pro, et après ce qu'on transmet en fait aux élèves, c'est ce qu'on apprend sur le, en fait ce qu'on, enfin sur je perds mes mots, ouais, sur voilà, exactement. Donc il y a pas de formation réelle, c'est la formation, c'est la vie de l'entreprise, la vie en agence et la vie réelle, quoi. Voilà.
Et puis c'est des, enfin les milieux artistiques comme ça, c'est des milieux qui évoluent tellement vite qu'en fait, enfin faut me dire si je me trompe, mais on s'auto-forme aussi beaucoup. Enfin, surtout, je ne peux pas forcément parler pour le milieu du design graphique ou quoi, mais dans les milieux de la 3D, tous nos profs nous disent, mais auto-formez-vous, renseignez-vous, parce que le numérique, ça évolue tellement vite que, bah, on parlait d'IA, mais l'IA, par exemple, ce n'est pas que génératif. Et donc, ça peut être des outils automatisés par l'IA pour nous faire un gain de temps énorme.
On s'en rend même pas compte, mais on l'utilise déjà beaucoup.
Et oui, bien sûr. Ouais.
pas...
C'est ça, et c'est, oui, c'est un gain de temps de fou, des fois, en fait. Enfin, comme disait Parouine, notamment l'aspect technique. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des questions à 1h du matin. Bah, je demande à une IA et j'ai la réponse tout de suite. Et, enfin, voilà, c'est un outil. Après, il ne faut pas non plus en devenir dépendant. Le but, c'est de nous-mêmes nous former, d'où l'importance d'être plus curieux, voilà, de faire des choses à côté de l'école, de se cultiver beaucoup. C'est, en fait, je pense que même après l'école, la formation, elle continue. C'est, on apprend notre métier, comme disait Parouine, ça fait peut-être 15-20 ans que vous faites ça, je pense. Un peu.
Tu es sortie en 2006 ?
Ouais, bah, voilà, ça fait presque 20 ans. Et en 20 ans, bah, Parouine nous disait qu'elle apprend encore aujourd'hui. Donc forcément, ça continue.
Oui, puis être créatif, c'est être curieux. Voilà, curieux de tout, curieux de ce qui a été, ce qui va, les tendances qui vont venir, être nous-mêmes tendances, voilà, enfin, je veux dire, ouais, il faut s'adapter, il faut tout le temps être curieux de plein de choses, quoi. C'est la curiosité qui fera tout.
Ouais, je me souviens, enfin, c'est pareil, c'est des questions, on l'évoque plus ou moins, on parle de ça, de ci, donc c'est des thématiques qui se rejoignent, mais il y a quelque chose qui t'avait frappé, Salma, c'était bah, justement l'accompagnement créatif qui est proposé par l'école.
Ouais. Oui, ça c'est un truc, en fait, ce qui je trouve hyper enrichissant, c'est qu'on n'a pas des profs en face de nous, on a des pros. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, quoi qu'il arrive à un moment dans leur vie, eu un pied dans le monde professionnel, un monde dans ce milieu-là, en fait, c'est hyper important. Je pense notamment à Renaud, qui est mon référent de la filière design graphique pour la deuxième année. Et lui, en fait, il nous accompagne sans même s'en rendre compte, juste le fait de nous expliquer pourquoi c'est important de faire hyper attention à la technique de nos fichiers. Il va nous raconter même parfois des anecdotes de sa vie professionnelle. Et en fait, on se prend une claque et on se dit, ah ouais, purée, là, il faut vraiment faire hyper attention. La créativité, c'est pas juste créer quelque chose qu'on pense être bien, surtout en design graphique. Il faut que tout soit cohérent. Il faut savoir l'expliquer. C'est comme ça qu'on peut le vendre au mieux. Et on a aussi eu la chance de visiter une imprimerie. En fait, on fait vraiment plein de choses. C'est pas juste, on nous pousse à être créatifs et on s'arrête là. On va encore plus loin. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'ils apportent leur vision de pro, du coup.
Toujours en ayant un pied dans le concret.
Ouais, ouais, c'est ça, toujours.
Ça apporte vachement de concret, là où au lycée, c'est vraiment...
C'est l'inverse.
Bah, oui, je peux pas dire non. C'est vrai parce que les profs, ils sont formés pour être profs, pour enseigner, et c'est pas concret. Quand on va prendre spé maths, par exemple, au lycée, ça m'a toujours dérangée, je trouvais pas ça concret. Et pourtant, je pense que bah, quand tu rentres dans le monde professionnel avec SPMAT, ça y est, ça te donne le concret. Parce que tu vois comment, dans quel contexte utiliser tel truc. Donc, et c'est en ça aussi que les bacs pro sont intéressants. C'est que bah, c'est plus professionnalisant qu'un bac... général, pro, je dis pro, mais technologique aussi. Enfin, c'est parce qu'ils ont des stages en plus.
Et puis, moi, j'ai jamais voulu être prof, hein, je vous le dis. C'est jamais été un rêve, mais voilà, mais je suis passionnée de mon métier. Et oui, donner des cours et voilà, parler de mon métier aux futurs graphistes, aux futurs 3D, etc., c'est génial. Voilà, c'est vraiment ça,
et
en fait.
Bah, et puis, ce que vous disiez, c'est qu'il y a un assez gros suivi qui est fait par Brassard. Donc, finalement, on le quitte, mais sans jamais trop le quitter, l'école.
Non. Moi, je sais que j'ai parlé avec le directeur il y a 2 jours. Il me disait que même après le master, donc après les 5 années d'études chez Brassard, on a toujours, même parfois 5 ans après, des retours de l'école. Mmh. Alors, où est-ce que vous en êtes? Et c'est pour aussi leurs statistiques à eux, évidemment, mais savoir dans quel genre d'entreprise on travaille, ce qu'on fait. Puis même, en fait, notre premier carnet d'adresse, c'est nos camarades d'école. Enfin, c'est avec eux que... Peut-être que dans 10 ans, je travaillerai avec eux. Enfin, on n'en sait rien, mais c'est hyper important de savoir s'entourer aussi.
Puis peut-être que dans 10 ans, tu enseigneras aussi à Brassard.
J'en sais rien.
Mais non.
Moi, je retourne sur l'IA, mais j'avais une petite question. Est-ce que ça pose davantage la question de comment protéger les droits d'auteur et la reconnaissance des artistes?
Je pense que oui. Parmi l'IA, en fait, il y a tellement de panels, il y a tellement de choses en fait, qui s'offrent à nous que, évidemment, certains artistes peuvent se sentir en danger. Quand on crée quelque chose, évidemment, ça nous appartient, on a des droits d'auteur dessus, que ce soit dans la musique, peu importe, il y a des lois qui protègent ça. Je ne pense pas vraiment que l'IA, c'est ça du coup la question, soit en danger face à ça. Ça dépend en fait comment on protège nos œuvres aussi. Mmh. C'est aussi, je pense, à nous d'avoir un regard sur ce qu'on fait. On est évidemment soumis, nous, à des lois en tant que créatifs. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Je prends l'exemple de prendre une typo, en faire un logo et la vendre. Non, la typo, il faut l'acheter. Il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. C'est d'où aussi l'importance de prendre conscience que le milieu créatif, ce n'est pas juste on fait ce qu'on veut. Ça va beaucoup plus loin que ça. On est soumis à des règles hyper importantes. Mmh. Ça, je pense que Paris me dira mieux que moi. Mais voilà.
Ouais, en fait, la question aussi se pose aujourd'hui. L'IA, c'est quand même un nouvel outil. Il faut faire attention à une utilisation, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on donne à l'IA, on en fait cadeau.
Mmh. Ouais.
Donc ça, c'est compliqué. J'entends par là qu'il faut pas... moi, par exemple, je sais qu'il y a des projets au sein de mon agence qui sont sous NDA. Donc en fait, on n'a pas le droit d'en parler, on a signé un contrat, etc. Ce genre de données, on ne va pas les balancer dans l'IA, lui disant « Bon, tiens, il y a un projet artistique, tu ne veux pas venir m'aider ?» Non, voilà, on fait attention à ce qu'on donne à l'IA. L'IA, elle est là pour nous aider. On peut lui demander « Tiens, as-tu une idée d'un logo qui pourrait ressembler à tel ou tel truc ?» etc. L'utiliser, mais pas lui donner, en fait. Voilà. Oui. Donc là, prendre son fichier, le balancer à l'IA, dire « Corrige-moi ça, corrige-moi ci. » Fais attention. Il faut, faut faire attention à ce qu'on donne à l'IA. Est-ce qu'on, on est encore dans un espèce de flou artistique par rapport à tout ça. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à l'utilisation.
Puis aussi, le fait que tout ce qui sort des générations d'IA n'est lié à aucun droit d'auteur ni rien. Donc, même si l'IA l'a généré pour toi, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à tout le monde, c'est tout public. Je crois que ça fonctionne comme ça.
Ouais, on donne des choses à l'IA. C'est ça qu'il faut retenir.
Ouais.
Ouais, c'est ça, il faut faire très attention à ce qu'on
C'est ça. Ouais.
Et malheureusement, on arrive à court de temps.
Exactement. Ah, ça passe vite.
Et oui, ça passe vite. Mais on était très contents de vous recevoir tous les trois, toutes les trois. Donc Salma, Anaël et Parwin Aziz, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, c'était avec grand plaisir.
Et alors, est-ce qu'on peut suivre l'école et peut-être même de manière plus individuelle vos travaux sur les réseaux sociaux?
Oui, moi personnellement, j'ai un compte Instagram, salma.kbb sur Instagram. J'ai aussi un Behance qui s'appelle salma.kimboubi, si je ne me dis pas de bêtises, normalement, oui, c'est ça. De toute façon, Instagram, je pense que vous avez toutes mes coordonnées dessus.
Pour ma part, j'ai un compte Instagram, un compte ArtStation et un LinkedIn, parce que faut savoir que dans nos milieux, c'est super important de se faire son réseau, et ça passe en grande partie via LinkedIn. Du moins, quand on est étudiant, c'est ce qu'il y a de plus crédible, parce que c'est bien d'avoir un compte Insta, mais ça n'a pas de crédibilité aux yeux des employeurs. Ouais. Donc,
Moi, sur LinkedIn, vous pouvez me trouver si besoin.
Et le site internet de l'école Brassard, quand même.
Bien sûr.
Ouais.
Et donc nous, on va se laisser sur une touche de musique avec un nouvel EP de Kinksy sorti le 21 mars. Le titre, c'est I Forgot. Le podcast de cette émission a été retrouvé sur radiocampustour.com et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Said you needed space. Said you needed more time to think, so you went away. But you still would stay in my dreams. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door. Even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away so long. Since you've been gone away, you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away, you've been gone away. 50-11 days, 50-11. I lost count of all of the weeks that you have your way. Wouldn't pick a fight when you.
You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away so long. Forgot your birthday, your favorite position. Do we still have chemistry? Yeah. Since you've been gone away so long.
C'est-à-dire comment
Ouais, je rame.
Rame donc. Rame, Samuel.
On va passer à une prochaine question.
Comment est-ce que je veux que je peux faire ça? Hop. Magnifique, ça sort pas.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.